D'abord, vous dire, évidemment, il faut faire attention avant de se réjouir trop vite. On peut dire quand même que les données des derniers jours sont encourageantes. On a vu le nombre de cas, si on regarde sur quelques jours, en tenant compte, évidemment, du nombre de tests qui varient d'une journée à l'autre. On est, depuis une semaine, passé d'à peu près 2500 nouveaux cas par jour à 2000 à peu près nouveaux cas par jour. Quand on regarde les cas actifs au cumulatif, on est passé de 24 000 cas cumulatifs là, qui sont encore actifs au Québec à hier 19 000 cas actifs au Québec. Évidemment, il faut être prudent, il s'agit d'une semaine, mais il semble que quand même les efforts que vous faites, les Québécois, commencent à payer. On peut penser, entre autres, au couvre-feu. Je pense que le soir, évidemment, en évitant d'aller visiter, entre autres, des personnes de 65 ans dans des maisons, ça a diminué le nombre de cas. Donc, c'est encourageant, mais il ne faut pas arrêter les efforts. Évidemment, vous voyez que le nombre d'hospitalisations quand même se maintient. Donc, cette baisse-là du nombre de cas, si elle se poursuit dans les prochaines semaines, va éventuellement amener une baisse des hospitalisations, mais on n'est pas là. Et puis, je le répète encore une fois, puis je pense que, comme je le disais, ça a commencé à payer. Les Québécois font de plus en plus attention aux personnes de 65 ans et plus. Je le répète, 80 % des hospitalisations, ce sont des personnes de 65 ans et plus. Puis 95 % des décès, ce sont des personnes de 75 ans et plus. Donc, nos efforts doivent se faire exactement à cet endroit-là. Pourquoi on doit faire des efforts? Je pense que c'est important de le répéter. Il y a au moins trois bonnes raisons pour faire des efforts. D'abord, sauver des vies en particulier chez les gens de 65 ans et plus. Deuxièmement, nous permettre d'avoir une certaine marge de manœuvre pour garder nos écoles ouvertes. Vous ne pouvez pas savoir comment ça me fait plaisir hier de voir les images des enfants du secondaire retrouver leurs amis, leurs profs, retourner à l'école. C'est certain qu'en retournant les enfants à l'école, je l'ai déjà dit, c'est un risque qu'on prend, il va y avoir plus de contagion. Il va effectivement être nécessaire de fermer des classes. Au printemps, on s'est rendu jusqu'à peu près 3-4 % des classes. Mais il reste que si on réussit à maintenir la majorité des enfants à l'école, bien, c'est une bonne nouvelle, même si c'est peut-être moins bon pour la contagion. Puis je veux peut-être en profiter pour dire un mot aux parents. Je comprends qu'il y a des parents qui soient inquiets, mais je vous le dis, quand on regarde la balance des inconvénients, oui, il y a des risques minimes de conséquences pour les enfants. C'est beaucoup plus grave éventuellement, s'ils transmettent ça à leurs parents ou à leurs grands-parents. Mais pour les enfants, il y a des risques minimes, mais il faut comprendre que les risques sont beaucoup plus grands, en tout cas, c'est ce que je pense, si on garde les enfants à la maison, si on les empêche d'apprendre, empêche d'avoir une vie sociale, de voir leurs amis. Donc, je continue à penser que les efforts qu'on fait, oui, ça sauve des vies, mais ça nous permet aussi d'avoir cette marge de manœuvre qu'on espère garder pour garder nos écoles ouvertes. L'autre raison pourquoi c'est important de continuer à faire des efforts, bien sûr, c'est pour sauver notre réseau de la santé. Docteur O'Patterney est avec nous aujourd'hui, s'il y en a qui ont des questions sur la situation des hôpitaux, mais je peux vous dire, la situation reste très critique dans les hôpitaux. Et oui, on arrive à bien soigner les gens qui ont la COVID-19, mais il y a des interventions, des chirurgies qui sont reportées. Puis on connaît beaucoup, je pense qu'on en connaît tous, des personnes qui attendent pour une chirurgie, qui se voient reporter de mois en mois leur chirurgie. Je comprends que ça peut être angoissant. C'est pour ces personnes-là qu'on doit faire des efforts, mais c'est aussi pour ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Ça fait 11 mois là, qu'on a des personnes, infirmières, médecins et autres personnels qui sont au front jour après jour. C'est dur. C'est très, très dur. Puis, s'il vous plaît, ayez un peu de compassion là, avant de décider d'aller faire un party dans une maison. Là, pensez à ces personnes-là qui font des efforts. Parlant de faire des efforts, je veux aujourd'hui soulever un point qui, pour moi, devient de plus en plus important, de plus en plus inquiétant pour moi. On en a parlé avec le gouvernement fédéral, mais on se rend compte qu'il y a des personnes qui reviennent de voyage à l'international avec le virus. Et je ne voudrais pas qu'on vive ce qu'on a vécu après le congé scolaire au mois de mars. Et je continue à ne pas comprendre qu'une personne décide d'aller à Punta Cana ou à Cancun dans un tout-inclus avec la situation qu'on vit au Québec, risquer de ramener le virus ici et se retrouver à engorger nos hôpitaux. J'avoue que je ne comprends pas. Je pense qu'il est temps d'agir. Donc, aujourd'hui, je demande à M. Trudeau, gouvernement fédéral, d'interdire rapidement tous les vols internationaux qui sont non essentiels. On pourra discuter de qu'est-ce qui est un vol essentiel, qu'est-ce qui n'est pas essentiel, mais c'est certain que pour moi, là, quelqu'un qui va en vacances dans le sud, dans un tout-inclus, là, c'est pas essentiel. Donc, je pense qu'il faut mettre ça en place, puis il faut le faire d'autant plus qu'on a actuellement des inquiétudes du côté de la santé publique avec les nouvelles souches. Encore un autre cas qu'on a découvert au cours des dernières heures qui vient du Royaume-Uni. Bien, vous l'avez vu, ce qui est arrivé en Angleterre, il y a la souche là, qu'on appelle B117 qui est plus contagieuse. Ça fait exploser le nombre de nouveaux cas. Puis si vous suivez la situation en Angleterre, là, c'est la catastrophe dans les hôpitaux. Il y a aussi une nouvelle souche qui vient du Brésil. Il semble que c'est cette souche-là qui a été importée au Portugal. Il y a aussi une nouvelle souche qui vient d'Afrique du Sud. Donc, la santé publique suit ça de très près pour agir rapidement. Mais évidemment, quand on a des gens qui arrivent de l'international, qui ont rencontré d'autres gens qui ont été à d'autres endroits à l'international, bon, on multiplie les chances de faire entrer ces souches-là. Donc, je pense que pour un certain temps, au moins jusqu'à temps que les personnes vulnérables soient toutes vaccinées, je pense qu'il faut rapidement interdire les vols internationaux. J'en ai parlé en privé, on en a parlé en privé avec le gouvernement fédéral, mais là, il est le temps d'agir. Je comprends que M. Trudeau dit comme nous que ce n'est pas idéal, mais là, on n'est plus dans des souhaits, on n'est plus à allumer des lampions. Là, on est vraiment à l'étape d'agir. Puis en attendant que M. Trudeau prenne sa décision, c'est important que le gouvernement fédéral en fasse plus pour le suivi des quarantaines. On a tous vu des cas où des gens sont revenus, puis c'est des appels automatisés. C'est pas comme ça qu'on va s'assurer que les gens qui reviennent de voyage restent à la maison pour une quarantaine. Un autre sujet dont je veux parler aujourd'hui, c'est les tests. Bon, vous savez, au Québec, on a une capacité de 40 000 tests réguliers. Il y a des journées qu'on en fait proche de 40 000, 35-40 000. Les fins de semaine, on manque de clients. Donc, on en fait plus 20, 25 000. Mais je veux qu'on on est tous d'accord. Là. Il n'y a pas deux écoles de pensée. On est tous d'accord pour dire plus on fait de tests, mieux c'est. Parce que plus on détecte rapidement, plus on peut isoler rapidement les personnes qui ont le virus, bien, plus ça limite la contagion. Bon, puis il y a des tests réguliers, puis il y a des tests rapides. Et puis avec la santé publique, on voit là qu'est-ce qui est approprié à quel endroit. Puis on travaille actuellement à augmenter le nombre de tests, que ce soit des tests réguliers ou des tests rapides. Mais là, on a vu, je le disais tantôt, le nombre de cas actifs est passé de 24 000 à 19 000. Mais il y a un problème qui persiste dans certains quartiers de Montréal. C'est là qu'on veut agir, là. Clinique mobile, peut-être des tests aléatoires rapides dans les écoles, ailleurs, dans les cliniques. Mais il y a quatre quartiers à Montréal où on a plus que 450 cas actifs par 100 000 habitants. C'est le seul endroit dans tout le Québec où on a plus de 450 cas actifs par 100 000 habitants. Donc, c'est Saint-Léonard-Saint-Michel, Onsic-Montréal-Nord, nord de l'île Saint-Laurent et Rivière-des-Prairies-Anjou-Montréal-Est. Donc, première chose que je demande, évidemment, c'est à toutes les personnes qui habitent ces quatre quartiers-là, c'est encore plus important, si vous avez des symptômes, d'aller vous faire tester. Puis c'est possible, dans les prochains jours, qu'on demande à vous tester, là, même si vous n'avez pas de symptômes, avec des tests rapides ou des tests réguliers, parce qu'il y a vraiment beaucoup de cas dans ces quatre quartiers-là. Et donc, on est content de voir que dans le reste du Québec, la situation semble s'améliorer, mais il reste un problème dans ces quatre quartiers. Bon. Un autre sujet que je veux vous parler aujourd'hui, c'est toute la question de la transparence. Bon. Je veux répéter un peu ce que j'ai dit depuis le début, depuis 11 mois. Nous, on reçoit des recommandations de la santé publique, mais c'est jamais noir ou blanc. Pour réduire le nombre de contacts, il y a plusieurs façons d'y arriver. Donc, c'est surtout des discussions qu'on a ensemble pour voir est-ce que telle ou telle mesure serait plus facilement applicable puis donner les mêmes résultats. Donc, c'est important, là, puis il n'y a pas de guide d'instruction. Donc, c'est historique, c'est unique la situation. Je pense que la santé publique fait son possible. On fait au gouvernement notre possible pour prendre les meilleures décisions pour l'ensemble des Québécois, en mettant dans la balance, oui, la santé physique, la santé mentale, l'économie, etc., etc. Mais là, il y a des gens qui laissent entendre qu'on cache des choses. Là. D'abord, c'est pas dans mon caractère. Là. Puis, j'ai demandé au docteur Arruda que toutes les recommandations qui ont été faites par écrit, qu'elles soient rendues publiques. Je pense qu'on n'a rien à cacher, puis s'il y a des gens qui pensent découvrir des complots là-dedans, bien, il n'y en a pas de complot, mais on va les rendre publics parce que, pour moi, c'est important qu'on soit transparent. Puis depuis le début de la pandémie, j'ai demandé que le plus d'informations possibles soient données aux Québécois pour qu'ils puissent juger des décisions que je prends. Puis encore une fois, on n'est pas parfait. Puis on s'ajuste au fur et à mesure de l'évolution de la contagion, au fur et à mesure aussi de l'évolution des connaissances dans le monde. Je pense que bien du monde ici à la table, les quatre, qui lisent beaucoup ce qui se fait ailleurs dans le monde. Puis on essaie de faire ce qu'il y a de mieux pour le Québec, mais je ne voudrais pas qu'il y ait des Québécois qui pensent qu'on prend des décisions en cachette puis qu'on cache des choses. C'est pas le cas. Je termine sur une note d'espoir, la vaccination. Bon, les bonnes puis les mauvaises nouvelles. La bonne nouvelle, les bonnes nouvelles, c'est qu'on est rendu à plus de 80 % des résidents de CHSLD qui sont vaccinés. Puis on devrait terminer cette semaine toute la vaccination des résidents dans les CHSLD. Les travailleurs de la santé, travailleurs, travailleuses de la santé, on est rendu à plus de 100 000. Puis là, on devrait, d'ici une dizaine de jours, commencer dans les RPA, là, donc les résidences pour aînés. Évidemment, il a fallu revoir notre plan suite, malheureusement, à la diminution des doses qu'on devait recevoir dans les prochaines semaines. On a fait un nouveau plan pour s'ajuster. Évidemment, ce qu'on souhaite, nous autres, on l'a déjà dit, c'est d'en recevoir 3-4 fois plus que ce qu'on reçoit actuellement. On est prêt à vacciner au moins 250 000 personnes par semaine. Donc, j'espère que le gouvernement fédéral va réussir ses négociations avec les différentes entreprises pharmaceutiques pour accélérer la livraison des vaccins. Puis, je veux vous dire, concernant les vaccins, d'abord, sont sécuritaires, sont efficaces. Donc, moi, je vais me faire vacciner quand on va arriver à mon âge. Et je vais suivre l'ordre de priorité, mais je veux vous dire quand même que moi, j'ai hâte de me faire vacciner. Et peut-être un mot sur la question de la deuxième dose. Écoutez, encore là, moi, j'ai confiance aux scientifiques qui nous disent que pour le bien commun de l'ensemble des personnes vulnérables au Québec, c'est mieux d'en vacciner plus une dose que d'en vacciner moins deux doses. Pour un certain temps, on va suivre l'immunité, mais juste vous dire que moi, je fais confiance à ça, puis je trouve que ça a bien du bon sens qu'on est mieux de protéger en grande partie plus de monde que de protéger parfaitement moins de monde. Il me semble que pour une société, c'est ce qu'il y a de mieux. Puis on n'a pas les mêmes priorités que les compagnies pharmaceutiques qui veulent prouver que leur produit est efficace. Donc, je termine en vous disant merci encore une fois. Merci aux Québécois. Vous voyez que les efforts que vous avez faits au cours des dernières semaines, au cours des derniers jours, commencent à payer. Donc, on va être capable de sauver des vies. C'est pas rien. On va être capable de garder nos enfants, on l'espère, à l'école, puis on va être capable de recommencer là, à accélérer les chirurgies pour enfin réduire nos délais d'attente. Donc, je veux remercier tout le monde. Good afternoon, everyone.
Bon, ben écoutez, vous aviez voté fort pour l'option B. Je vous dis pas que c'est ça qui a dicté la décision du PM, mais le premier ministre, vous l'avez entendu comme moi, vient de demander au gouvernement fédéral d'interdire les voyages internationaux non essentiels. C'est le sens de ce que vous souhaitiez. Quand on vous a consulté en début d'émission, vous étiez très, très nombreux à souhaiter ça. Eh bien là, le premier ministre Legault vient de le demander à Justin Trudeau. On va bien voir, Denis Couture, ce que Justin Trudeau va faire avec ça. Aujourd'hui, c'était clair qu'il n'était pas prêt à interdire les voyages, mais il a dit « faites-le pas, parce que si vous le faites, je vais peut-être vous serrer à la vis au retour sans nous dire de quoi il s'agissait exactement. »
En tout cas, il a parlé d'un changement de mesure éventuel,
sans préavis.
Sans préavis. Mais là, M. Legault met de la pression. Il demande à M. Trudeau d'interdire rapidement les voyages internationaux non essentiels. Je retiens le « rapidement » là-dedans. Alors, il veut que ça bouge beaucoup. Il dit, M. Legault, on n'est plus à allumer des lampions. Autrement dit, c'est beau de faire des souhaits, mais il faut agir, il faut y aller dans l'action. Il a fait référence aux différentes souches de variants là, du Royaume-Uni, du Brésil, de l'Afrique du Sud. Il a dit qu'il ne comprenait pas les personnes qui puissent acheter des forfaits tout inclus à Punta Cana, à Cancun. Il a demandé aujourd'hui au gouvernement fédéral donc d'interdire ce genre de voyage-là, ce qui n'est pas essentiel. Il faudra voir comment on définit un voyage qui est essentiel ou qui ne l'est pas, mais il veut que ça se fasse très rapidement. C'est un gros morceau.
Un peu comme tu le disais tout à l'heure, il dit « J'espère qu'on ne va pas revivre ce qu'on a vécu au mois de mars après le congé scolaire, quand le fédéral a trop tardé à fermer ses frontières. »
Oui, c'est un scénario qui peut être très dangereux. On l'a vécu déjà.
Ouais.
Et une autre chose que je remarque aussi dans ce point de presse, Bernard, les quartiers de Montréal où il y a des cas actifs quand même très nombreux, plus de 450 cas actifs par 100 000 habitants. Il a parlé des quartiers Saint-Léonard, Saint-Michel, Antique, Montréal-Nord, nord de l'île, Saint-Laurent, Rivière-des-Prairies, Anjou, Montréal-Est. C'est une liste assez longue, mais ce sont des quartiers qui sont limitrophes, qui sont en général là, dans le nord de l'île de Montréal, sur le bord de la Rivière-des-Prairies, pour la grande majorité de ces quartiers-là. Il demande aux gens « allez vous faire tester ». Et il a aussi parlé de la transparence de son gouvernement. Est-ce que nous sommes transparents? Oui. Et il a demandé à ce que toute recommandation soit rendue publique. Il dit que le gouvernement n'a rien à cacher.
Voilà, c'est ça, exactement. Ça s'en vient avec les questions. On y va. On s'en va aux questions.
Monsieur Legault, on comprend là, que vous êtes un peu impatient. Vous avez hâte que les voyages à l'étranger pour le plaisir soient arrêtés. Mais on entend des fois dire que c'est un droit constitutionnel de pouvoir voyager. C'est quoi la solution? Comment on peut concrètement interdire ces voyages-là?
Bien, d'abord, on l'a fait au printemps. Évidemment, ça prend une situation exceptionnelle. On vit actuellement une situation qui est exceptionnelle. Bon, je peux comprendre que ça pose peut-être des questions. Je donne un exemple. Là, quelqu'un qui a sa mère qui est sur le bord de mourir puis qui habite aux États-Unis, ben oui, c'est un cas essentiel. Mais aller dans un package, un forfait à Cancun avec des buffets puis tout ce qu'on voudra, elle va faire le party autour de la piscine, là. Je m'excuse, mais c'est pas essentiel. Puis ils doivent moyen, je pense, c'est possible d'arrêter ces voyages-là. En plus, bien, on l'a fait en provenant de certains pays. On l'a fait pour un certain temps pour le Royaume-Uni. Bon, là, on nous dit qu'il y a d'autres souches, puis il y a d'autres personnes qui ont ces souches-là dans d'autres pays. Donc, moi, je suis prêt, ce qu'on a dit au gouvernement fédéral, c'est qu'on est prêt à discuter du comment sur le choix des destinations, le choix des personnes. Mais je sens là, que les Québécois sont fâchés, puis moi, je suis fâché. De voir qu'on fait des efforts, puis qu'il y a des personnes qui voyagent pour le fun à l'étranger, puis qui reviennent ici avec le virus, puis qui engorgent nos hôpitaux.
Puis une autre question concernant le décès hier de Raphaël André. La mairesse de Montréal vous a demandé aujourd'hui une exemption. Est-ce que vous comptez répondre à ça?
Bon, d'abord, il va y avoir une enquête du coroner. Évidemment, j'offre aussi mes condoléances à tous ses proches. Ce qu'on comprend, c'est que le refuge qu'il y avait près de l'endroit où il est décédé était fermé parce qu'il y avait une éclosion. Ce que je comprends aussi, c'est... Moi, j'ai très confiance à nos policiers. Puis j'ai discuté là, avec Geneviève Guilbeault, qui, elle, a discuté avec les corps policiers. Je pense qu'ils font un travail extraordinaire. Puis, ils font pas exprès pour donner des contraventions à des itinérants. Puis, il faut comprendre que si on mettait dans les règlements le fait qu'un itinérant peut pas recevoir de contravention, bien, n'importe qui pourrait dire, moi, je suis un itinérant, donc vous n'avez pas le droit de me donner une contravention. Je pense qu'une des forces, entre autres, de notre couvre-feu, là, si on compare avec ce qui se fait ailleurs, c'est que les policiers sont capables, après 8 heures, d'intervenir. D'ailleurs, ils ont arrêté beaucoup de party, de rassemblements privés dans les maisons à cause, justement, du couvre-feu qui est clair. Mais moi, j'ai confiance dans les policiers. Puis je comprends pas, là. Moi, je pense que je regarde au cours des derniers jours, dernières semaines, puis même depuis le début de la pandémie, je pense que les policiers, ils ont eu du bon jugement avec les itinérants. Laissons-les continuer à travailler.
On va y aller avec François Gariepy de Radio X.
Bonjour à vous quatre. Concernant la date butoir du 8 février, enfin la fin du confinement hivernal, le couvre-feu aussi qui devrait venir à sa fin, est-ce qu'un retour au code de couleur est anticipé par votre gouvernement? Ça pourrait mettre, comme par exemple en Ontario, de distinguer des zones problématiques comme vous avez énumérées aujourd'hui à Montréal, et qu'on pourrait comparer par exemple à Québec ou la Côte-Nord. Donc, est-ce que ce retour-là au code de couleur est envisagé par le gouvernement?
Bien, je peux sûrement commencer parce que je pense que c'est ce que tout le monde souhaite. Hein? On s'entend, le premier ministre a dit qu'il faut trouver l'équilibre en ce moment, en dire oui, il y a des bonnes nouvelles du côté du nombre de cas, mais comme vous savez, le nombre de cas, c'est uniquement le seul critère. En ce moment, on est beaucoup plus préoccupé par les hospitalisations. On suit aussi le nombre d'éclosions. Là, je pense qu'on a eu ces discussions-là. J'aime prendre à partie le cas de Québec. Parce que rappelez-vous comment les situations de façon régionale ont évolué. Québec, depuis quelques semaines, c'est impressionnant d'être passé de près de 300 cas par jour à quelques 100 cas par jour en ce moment. Puis on voit que la tendance est là. Il y a eu un effort très concentré dans la région par tous les intervenants. Fait que je pense que la question de revenir à des zones au bon moment, elle est toujours là, puis on le souhaite. On le souhaite. Je prends l'exemple du Saguenay aussi, rappelez-vous comment ça a été difficile au Saguenay pendant un certain temps, puis là, tout d'un coup, il y a eu une belle amélioration. Donc, pour une réponse très claire, Oui, on voudrait y revenir, mais encore une fois, on dit qu'il est trop tôt parce que l'ensemble des conditions pour le faire ne sont pas là présentement. Mais je peux vous dire que si tout le monde travaille comme ça s'est fait à Québec, au Saguenay, puis à Montréal, c'est des îlots, hein? On s'entend bien, là, le premier ministre l'a dit. Fait qu'on essaie de travailler beaucoup plus niché en ce moment pour aller chercher ces cas-là, mais je pense qu'on va y arriver. On va y arriver.
Merci de votre réponse. Peut-être un complément d'information pour M. Arruda. Concernant la souche B117, j'aimerais peut-être vous proposer l'opportunité, en fait, d'en discourir, à savoir quelles sont vos angoisses par rapport à cette souche-là qui devient la plus populaire avec un taux d'infection beaucoup plus élevé que la souche première. Est-ce que ça fait partie de vos angoisses quotidiennes, cette nouvelle souche?
Bien, tout changement de souche peut entraîner des modifications dans le portrait épidémiologique. Donc, oui, ça nous inquiète. Ce que cette souche-là a, en particularité, c'est qu'elle est très transmissible. Bon, jusqu'à maintenant, on n'a pas nécessairement démontré qu'elle tue plus que les autres, mais par le fait qu'elle est très transmissible, bien, vous allez augmenter le nombre de cas. Au lieu d'être à 1500, 2000, vous pouvez être à 4000, 5000, 6000. Puis plus il y a de nombre de cas, bien, plus il y a de chances que des gens viennent contaminer des personnes âgées, des gens à risque, et même aussi que des jeunes adultes se retrouvent malades aux soins intensifs. Donc, c'est comme si, à chaque fois que ces souches-là viennent, si elles se transmettent beaucoup, bien, ça a un impact partout sur les éclosions, sur les hospitalisations, sur les décès, etc.
C'est vrai de dire que, dans le fond, là, la jonction de l'arrivée des vaccins, l'arrivée de cette nouvelle souche-là est une préoccupation pour M. Arruda.
Bien, tout à fait. C'est toute la question du timing. Comme je vais vous dire, bien honnêtement, si on avait toutes les doses dont on désirait et qu'on serait capable de donner aux gens, on protégerait plus de monde, on serait moins inquiet. Mais, vous savez, les virus, ça mute. Ça peut, actuellement, les virus semblent répondre au vaccin tel qu'il est présent. Mais je ne veux pas parler pour l'avenir, là. Mais on surveille ça de très près et on se donne une capacité au Québec de faire ces tests-là et détecter les mutations potentielles.
Parfait. On va passer aux questions en ligne. Donc, j'ai la première question de Alain Laforêt de TVA Nouvelles.
Bonjour, est-ce que vous m'entendez?
Oui, très bien.
Monsieur le Premier ministre, ça fait deux fois là, que vous demandez aux Québécois de ne pas voyager à l'étranger. Il y a un de vos députés, le député de Saint-Jérôme, Yuri Chassin, qui est allé à l'étranger. Il y a d'autres chefs de parti qui ont pris des mesures. Dans votre cas, silence radio. Qu'en est-il?
Bon. Dans le cas de Yuri Chassin, d'abord, son conjoint, qui veut immigrer au Canada, habite au Pérou, et lui jugeait que c'était nécessaire d'aller le voir au Pérou, et il a obtenu la permission de mon directeur de cabinet. Donc, je pense que tout était fait dans l'ordre.
Donc, vous considérez que c'était pour lui un voyage essentiel, comme pour aller voir quelqu'un qui est décédé dans sa famille à l'étranger?
Oui.
En sous-question?
Alors, en sous-question, est-ce que vous avez l'intention de prendre des mesures aussi fortes que vous l'avez fait lors de la première vague aux aéroports pour vous assurer que les gens respectent les consignes, parce que le message de Justin Trudeau, premier ministre canadien aujourd'hui, c'est de dire « la Constitution nous empêche d'interdire les voyages à l'étranger, sauf qu'on demande aux gens de ne pas le faire ».
Oui, bon, écoutez, d'abord, je demande officiellement pour la première fois, on l'a fait en privé, mais là, je le fais publiquement, d'interdire les voyages internationaux non essentiel. On est ouvert à discuter de la liste puis des comment on fait ça. Deuxièmement, je demande à M. Trudeau, puis ça, c'est pas la première fois, qu'on renforce les mesures pour s'assurer que les personnes qui reviennent de voyage respectent la quarantaine. Puis c'est pas suffisant de faire des appels robots. Et l'autre suggestion, quelle était-elle déjà?
Est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes?
Est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes? On est en train de regarder pour, si on n'a pas de réponse positive de la part du gouvernement fédéral, de mettre nous-mêmes en place des mesures aux aéroports au Québec.
OK. Luc Lavoie, bonjour.
Oui, Bernard.
Bon, OK. Bien là, il vient de dire à Trudeau, si tu ne bouges pas, moi, je vais bouger. Quels sont ses pouvoirs? Comment pourrait-il le faire? À voir, là, Luc. Mes réactions dans l'ensemble du point de presse, comment tu vois ça, toi?
Je trouve que son ton était bien meilleur, ce que j'ai entendu la semaine dernière de la part de M. Dubé. Il me parle de données encourageantes, il parle de le couvre-feu qui semble donner des résultats. Mais surtout, ce qu'on va retenir de son point de presse aujourd'hui, c'est sa demande à Trudeau de dire « Je veux que vous interdisiez les voyages internationaux non essentiels. »
Ouais.
Je ne sais pas qu'est-ce que Trudeau va répondre à ça. Tu sais, comme moi, quand on écoute les points de presse de Trudeau, c'est d'une platitude. Il faut vraiment se concentrer pour essayer de comprendre ce qu'il est en train de dire. Je sais pas... Tu sais, il a laissé entendre qu'il allait peut-être leur serrer la vis, ouais, ceux qui n'écoutaient pas. Mais pour l'instant, c'est loin d'être clair. L'autre chose que j'ai trouvé intéressante, là, c'est cette question, puis il y a une chronique ce matin, je ne sais plus de quel de nos collègues là-dessus, la question des recommandations faites par la santé publique au gouvernement, puis le fait qu'on voudrait les cacher, puis on pense qu'il y a toutes sortes de recommandations écrites, et patati et patata. Je trouve que c'est un débat d'une insignifiance, mais d'une insignifiance. On est en gestion de crise. Penses-tu qu'il y a quelqu'un qui est en train d'écrire une note de service juste à côté? Voyons donc! Voyons! C'est quoi cette histoire-là? Et de tenir ce discours qu'on cache des choses, ben ça vient alimenter les anti-vaccins, puis les anti-ceci, puis les anti-cela. Et quant à Youri Chassin, ben t'as entendu sa réponse.
Oh, il sera pas sanctionné, hein?
Et monsieur...
non, il sera pas sanctionné.
Quand
mais ça
fait un an que t'as pas vu ton conjoint ou ta conjointe, puis tu vas rencontrer le conjoint ou la conjointe, d'après toi, c'est-tu un voyage d'agrément?
Ben, en tout cas, moi, je calcule que c'est pas essentiel. Fait que moi, je calcule qu'il aurait pas dû lui donner la permission de partir.
C'est ce que je pense aussi.
Hein, c'est ce que tu penses?
Effectivement, c'est en plein ce que je pense.
C'est ça. Alors, c'est sûr que là, qu'est-ce que tu veux? Ça va le pourchasser. Legault, il va avoir l'air du gars qui est dans le deux poids, deux mesures. Il demande aux autres d'être sanctionnés, mais quand c'est un de ses députés, il ne sanctionne pas. C'est sûr.
Sauf le gars qui s'appelle Tardif à Rivière-du-Loup.
Ouais, lui, il a été
expulsé. Lui avait fait pas mal moins pire qu'aller au Pérou, là.
Puis il a été expulsé.
Il avait fait le party un peu. Lui, il a été expulsé.
Ah, d'accord, regarde. On va continuer à suivre cette situation, mais le dossier Chassin, d'après moi, la CAQ s'en sortira pas à si bon compte. Luc, on se reparle un peu plus tard.
À tout à l'heure.
On s'en va à la pause. Au retour, Lise Ravary, qui prend le relais, elle va parler notamment des les alcooliques anonymes. Oui, parce que, écoute, faut qu'ils se rencontrent, les alcooliques anonymes, là, puis c'est pas des blagues, là. Je veux dire, ça fait vraiment partie de l'exercice, là. Alors là, il y a eu toutes sortes de contraintes. Lise Ravary va nous en parler. Restez là.